16h26, bienvenue chez vous à Boulevard 102.1, bienvenue chez nous dans le retour. On prévoit quelques centimètres de neige demain, près de 2 normalement. Neige intermittente qui devrait se poursuivre au cours de la nuit de mercredi à jeudi et également en journée jeudi avec un maximum de moins 2. Ce soir, cette nuit, minimum de moins 18, demain, maximum de moins 8. Et plus ça va, plus on va avoir des températures agréables. Vendredi, alternance soleil-nuage, maximum de moins 2. Et samedi, nuageux, avec un maximum de 4 degrés. Audrey, sur les routes.
C'est quand même très au ralenti si vous êtes sur la capitale, direction est, à la hauteur de Robert Bourassa. Ouest, c'est à la hauteur de Laurentienne que ça se passe entre Bourg-Royal même et Laurentienne. Robert Bourassa, direction nord, ça se passe entre Charest et la capitale. Si vous êtes à l'entrée des ponts, direction sud, il y a un bon ralentissement à prévoir, je vous dirais, à partir de Versant Nord jusqu'à l'entrée des ponts, que vous soyez sur Duplessis ou sur Henri IV. Devant la base militaire dans le coin de Shannon, dans les deux directions, route de la Bravoure, c'est au ralenti aussi. Sinon, ben, c'est vraiment sur la rive sud, là, la 20 direction ouest, entre la route du président Kennedy et Taniata. Ça, c'est les grandes artères. S'il y a autre chose, 418-971-1021 texto.
On s'attend à voir le maire venir s'installer en studio avec nous autres au cours des prochaines secondes. Vous avez bogué le Twitch, mademoiselle. Twitch.tv, la chaîne BLVD, barre en dessous FM. On est de retour. On est en train d'ajuster tout ça. Monsieur Marchand, bonjour. On est-tu prêt à s'installer tout de suite?
Bien, regarde, on peut faire ça, je vais faire de la magie.
Prenez votre temps, là, enlevez votre veste, enlevez votre foulard, on va s'installer. On a les 65 minutes habituelles. Oui, tout est beau, excellent, good, good, good. On va juste prendre le temps de s'installer. J'apprécie. Monsieur Marchand, ça va bien?
Ça va très bien, vous autres?
Oui, ça va, merci. Good. Grosse journée.
Oui, mais c'est toujours des grosses journées.
Oui, mais là, avec les travaux qui s'en viennent, c'est quand même beaucoup d'annonces qui inquiètent beaucoup de gens. Pourquoi on a décidé d'y aller par morceaux? Il y a beaucoup de gens qui étaient inquiets, entre autres, pour René Lévesque dans la section Est. Pourquoi on a décidé d'y aller étape par étape? C'est-tu comme ça qu'on va faire les travaux aussi?
Un peu, mais c'est... Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a dit qu'on donnerait l'information au moment où on l'aurait.
Oui.
L'information pour, par exemple, René Lévesque, le secteur que tu nommes, qui suscite des inquiétudes, on ne l'a pas encore. La CDPQ Infra, qui est responsable des travaux préparatoires de ce secteur-là, vient de confirmer, vous l'avez vu dans les médias, là, QIT, qui va faire ces travaux-là. Donc, elle doit s'asseoir avec lui puis voir ça va être quand. Puis après, il va y avoir de la communication qui va se faire auprès des citoyens. Puis on va le dire au monde dès qu'on va le savoir.
Fait que la CDPQ Infra gère ses affaires de son côté, vous passe l'info, puis ensuite de ça, c'est vous qui servez de dernier maillon avant de parler aux citoyens
puis
aux
entreprises. Oui, mais ils vont être avec nous autres. C'est pas tant qu'ils nous passent l'info puis nous, on fait la communication. On va faire la communication ensemble. On travaille avec eux autres là-dedans. Mais là, l'info, on ne l'avait pas. Fait que là, j'avais deux choix. Ou ce que j'avais comme info, on attendait une semaine, deux semaines, trois semaines d'avoir les officialisations de la CDPQ Infra, où on sortait tout de suite en disant l'info qu'on a sur le secteur ouest, donc ce qui est à l'ouest de l'Université Laval, on le sort tout de suite. Puis même si ce n'est pas à 100% final, j'aime mieux qu'on donne l'info, qu'on soit transparent, puis que dès qu'on l'a, on la partage, plutôt qu'attendre à la dernière minute, puis dire, bien, finalement, dans deux semaines, il va commencer tel type de travaux. C'est pas comme ça que je veux travailler ce projet-là.
J'écoutais vos explications tantôt dans la présentation de presse. Notre journaliste Mathias Turcotte nous a ramené des extraits de vos déclarations. Puis, si j'ai bien compris, pour que ça marche dans les prochaines années, est-ce que Québec devra devenir un genre de Los Angeles? C'est sur la côte ouest, on le sait, là, il y a beaucoup de business qui commencent à 5 heures le matin, il y a des business qui commencent à 10 heures dans le milieu de l'avant-midi. Est-ce que c'est comme ça qu'on devra ventiler et s'ajuster puis qu'on se lance dans le vide en espérant que les entreprises adoptent des heures d'ouverture modifiées, des comportements différents?
Je pense que les gens vont s'adapter, mais je pense pas que ça va donner cet effet-là. Là. Los Angeles, c'est une situation quand même bien différente. Cependant, il n'y a personne qui a envie d'être pris dans le trafic.
C'est sûr.
Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens, au lieu de commencer à 8 heures, ils vont dire à leur boss, « Mais moi, je suis commencé à 7h30, ça ne change rien dans leur travail. Mm-hmm. » Ils vont s'adapter comme ça, puis je pense que les gens vont avoir la latitude de s'adapter. Il y en a qui ne peuvent pas s'adapter. Quelqu'un qui travaille dans un commerce qui rouvre à 9 heures, il ne peut pas dire, « Mais je rentre à 10 heures, puis le commerce ne sera pas ouvert. » On le comprend.
Qui peut s'adapter dans votre livre?
Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent s'adapter. Les fonctionnaires peuvent s'adapter. Les gens qui travaillent dans certaines fonctions dans les bureaux d'assurance peuvent s'adapter. Pas nécessairement la personne qui répond au téléphone, qui est en service à la clientèle, mais même là, il y a du télétravail qui se fait pour certains. Il y a des adaptations possibles.
Est-ce que le gouvernement vous est revenu sur le télétravail, justement?
Oui. Puis ce qu'ils ont dit, c'est qu'on fait confiance à nos gestionnaires de justement permettre la latitude pour télétravail ou adaptation des heures. Puis c'est parfait. Moi, ça répond. Si les gestionnaires... concerné, on s'entend. Là, la personne qui a son bureau dans le Ménil, le bureau du gouvernement dans le Ménil, il ne sera pas touché par ça. C'est celle qui est peut-être au ministère du Revenu à côté du Château Frontenac. C'est celle qui est peut-être dans le secteur de René Lévesque, mettons, Industrielle Alliance ou Beneva. C'est de tout ça qu'on parle, plus que tout le monde.
Est-ce qu'on a une stratégie de communication exceptionnelle, pas pour dire que c'est bon, là, pour dire que c'est d'exception, pour communiquer justement l'état des travaux. Aujourd'hui, René Lévesque s'est fermé au complet. Demain, c'est ouvert sur une voie et ainsi de suite. J'ai l'impression que, puis nous autres, je pense qu'on va avoir notre rôle à jouer là-dedans aussi, les médias. Ouais. On l'a vu, quand on est préparé d'avance, les gens sont capables de réagir de façon positive. Dans un secteur névralgique comme les ponts, on l'a vu de façon épisodique. Là, ça va durer longtemps sur plusieurs secteurs. Avez-vous commencé à penser à une stratégie unique que vous n'avez peut-être pas utilisée encore pour communiquer ces affaires-là?
Déjà, ce qu'on fait, c'est unique, là. On n'a jamais été autant proactif que ça par rapport à des chantiers. Là.
Mais il y a des commerçants qui disent qu'ils sont déçus, qu'ils auraient aimé être consultés avant, qu'ils sont allés à une séance d'information où ils ont réentendu ce qu'ils ont entendu à radio deux jours avant.
Et c'est en partie vrai. Pourquoi? Parce que ce qu'on n'a pas comme info, on préfère quand même donner ce qu'on a.
Mm-hmm.
Aujourd'hui, il y avait une question d'un journaliste qui disait, est-ce que vous êtes sûr, je vais prendre un exemple, est-ce que vous êtes sûr que sur quatre bourgeois entre Pidos et Duplessis, ça va commencer le 20 avril? Parce que c'est ce qu'on a dit.
Mm-hmm.
On est probablement, là, on est autour de la date. C'est-tu le 20, c'est-tu le 18, c'est-tu le 27, je ne le sais pas. Mais aujourd'hui, je préfère dire aux gens, c'est le 20 avril, puis dès qu'on va avoir l'information la plus fine possible, on va le donner, que d'attendre de savoir si c'est le 22 ou le 27, puis de ne pas donner l'information aux gens. Moi, je veux traiter les gens intelligents, ça veut dire vous avez l'information qu'on a, puis vous êtes capable de dire, OK, moi, j'utilise quatre bourgeois, à partir du 20 avril, il faut déjà que je me dise, je l'utilise-tu encore, je prends-tu un autre moyen, je prends-tu une autre route? C'est ça, pour moi, traiter le citoyen avec intelligence.
Le RTC devra, lui aussi, charcuter ses parcours d'une façon ou d'une autre.
Les 50 parcours qui sont affectés.
C'est énorme.
Ouais, ouais.
À partir de ce moment-là, où on est en demande de budget pour essayer de tout chambouler ça, ça risque d'être un méchant bordel. Ils ont-tu de l'avance, eux autres?
Oui, ça, sur le réseau de transition, ils sont prêts, là. Tout ça n'a pas à voir avec les demandes qu'ils ont faites. Là, tu fais référence à l'article de leur association de transport collectif au Québec qui dit qu'il faut avoir plus d'argent.
Il faut payer tous ces cadres-là, après tout.
Plus prévisible.
Quoi? On jase.
Quoi? Tout le monde veut un bon salaire, mais il ne veut pas que l'autre gagne un bon salaire. Ça, c'est un classique. Mais ça étant dit, le RTC va être prêt. Il travaille bien. Il va avoir un réseau de transition. On l'a communiqué aux gens. Il rentre en service le 21 mars. C'est pas parce qu'il va avoir beaucoup de travaux le 21 mars. C'est parce qu'on veut que les gens aient le temps de s'adapter. Ça fait deux mois qu'on en a parlé. En fait, ça va faire deux mois le 21 mars. Donc, on veut que les gens aient été voir sur le site. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y aura plus d'autobus qui vont circuler sur René Lévesque. Le 805 va être créé. Il va permettre de se déplacer est-ouest à partir du parc Victoria jusqu'à dépasser l'Université Laval. On veut que les gens soient au courant et puissent prendre des décisions en connaissance de cause.
On nous a partagé les parcours, mais la dernière fois que vous êtes venu vous asseoir avec nous, vous avez demandé à ce que les gens adaptent leur horaire. Vous l'avez mentionné encore, peut-être diminuer le télétravail, etc., etc. Mais il y a des gens qui nous soulignaient, hey, moi, je suis bien prêt à ne pas prendre mon véhicule pour me rendre au travail. Mais moi, ça donne que les heures avec mon employeur, le RTC, n'est pas en fonction. Mm-hmm. On nous parle aussi des garderies qui ne pourront pas ajuster leur heure de travail. Le réseau de la santé qui ne sera pas en mesure de le faire. Fait il n'y a pas un peu un acte de foi de penser que ça va être facile de coordonner tout ça?
En fait, c'est pas simple. C'est vrai que c'est pas simple. Cependant, on n'a pas besoin que 100 % du monde change leur horaire. Il y a encore de la capacité de se déplacer.
On l'a-tu le pourcentage théorique de pourcentage d'ajustement?
On peut pas
se servir
d'une intelligence artificielle pour essayer de faire ça, de travailler avec, vous savez, comme partenaire Greenlight de Google Maps. Est-ce que c'est pas quelque chose avec lequel il pourrait travailler?
C'est comme ça qu'on a travaillé dans les simulations. Là. Quand on a dit le temps pour passer la colline parlementaire en fin de journée, on se rappelle que les deux périodes de pointe, c'est le point du matin puis le point de l'après-midi. Dans la journée, c'est moins pire. La fin de semaine, il n'y aura pas d'enjeu. On est à surcapacité. Mais le soir, on est à surcapacité aussi. Mais le grand défi qu'on a, c'est de savoir qui va pouvoir déplacer ses activités. Moi, je ne sais pas quelle, la personne qui se déplace, qui s'en va vers la colonne parlementaire, c'est un travail qu'elle ne peut pas changer parce qu'elle est infirmière, c'est un travail qu'elle ne peut pas changer parce que elle est, la personne est réceptionniste. Mais on sait que si on a une proportion, puis non, je ne l'ai pas, de gens qui se déplacent, on va avoir... Les jeunes, il y a des gens qui disent que ça va être l'enfer, la ville va être bouchée, c'est pas vrai. Maintenant, je ne sais pas comment les gens vont réagir, mais ce que je sais, c'est qu'ensemble, on est intelligent, on est capable de trouver des solutions, puis on en a déjà mis 30 solutions en place pour mitiger les effets pour les citoyens. Je pense qu'on peut y arriver.
M. Marchand, juste pour boucler la boucle sur ce sujet-là, parce qu'on a un paquet d'autres choses à jaser, je vais fermer nos micros, je vais vous faire entendre le chef de l'opposition, Stéphane Lachance, qui réagissait à vos annonces d'aujourd'hui. Ah, bien, si vous prenez les écouteurs, ça va être encore plus simple. Avez-vous du son?
Oui.
C'était-tu les écouteurs d'Audrey? Parce que si on a un maire sourd, déjà qu'il y en a qui disent que vous écoutez pas, on va être dans le trou.
Non, non, le son est bon!
Parfait, good. Ben, on écoute Stéphane Lachance.
Forcé d'admettre, là, encore une fois, là, moi, je trouve que c'est rempli d'improvisation. On nous présente une belle grille, mais on nous dit qu'on n'a pas choisi les entrepreneurs, qu'on espère que les entrepreneurs qui vont soumissionner vont être capables d'entrer dans les paramètres de la grille. On veut, là, je vous ferai remarquer aussi qu'on n'a jamais parlé de René Lévesque. On sait que c'est un sujet qui est très, très sensible auprès de la population. On n'en a pas parlé, donc on a parlé de d'autres tronçons que celui de René Lévesque. Puis même, je vous dirais qu'on a peut-être même mis l'odieux sur le dos du CDPQ Infra qui aura à trancher pour René Lévesque. C'est peut-être une stratégie.
M. Marchand?
Il n'y a pas de complot. C'est facile de crier au complot. Il n'y a pas de complot.
Par contre, le principe qu'on sort des dates, mais qu'on n'a pas encore les entreprises qui vont travailler dessus, c'est pas tout à fait faux, là.
Mais non, mais c'est vrai. Mais cependant, c'est moi qui ai fait le choix de demander qu'on sorte aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les équipes... Qu'est-ce qu'ils font, les équipes, d'habitude? Ils attendent qu'on soit à 100 % prêt. Mais ça veut dire qu'on va dire aux gens, je reprends l'exemple de quatre bourgeois, là, les gens qui habitent à Sainte-Foy ou qui transitent via quatre bourgeois entre Pidose et Duplessis, le plan présentement qu'on a, là, dans les prochaines semaines, on va choisir l'entrepreneur. Ça passe au comité exécutif le 23 mars.
Oui, mais là, il faut s'assurer que l'entrepreneur soit disponible. Le parallèle que je faisais
non,
tantôt...
Quand ils appliquent, quand les appels
d'offres... C'est parce qu'ils savent qu'ils sont disponibles
c'est
à ce moment-là.
Exact. Ils ne peuvent pas appliquer du moment où je vais le faire l'an prochain. C'est pas comme ça que ça marche. Fait que le 23 mars, ça passe à l'exécutif. Ça voudrait dire qu'à peu près à partir du 30 mars, je peux communiquer que dans la semaine du 13 ou du 20 avril, les travaux commencent. Moi, j'ai envie de le dire plus vite aux citoyens. J'ai envie de leur dire présentement, c'est le 20 avril.
C'est votre décision, puis c'est une décision stratégique.
C'est ma décision, et c'est une décision stratégique, pas machiavélique. Là. C'est pas un plan grand plan complot. C'est juste pour dire aux gens, je veux le dire aujourd'hui en février, deux mois d'avance, pour que les gens fassent « OK, ça risque d'être autour du 20 avril ». Le classique dans les organisations, c'est toujours d'attendre d'être à 100 % sûr parce qu'il y a quelqu'un qui va te dire « Si t'es pas à 100 % sûr, il y a peut-être une incertitude. » J'aime mieux qu'on vive avec l'incertitude, mais qu'on dise aux gens « L'information qu'on a, là, on vous la partage complètement. » Il nous parle de René Lévesque, mais je ne l'ai pas, l'information aujourd'hui sur René Lévesque. Est-ce que j'attends pour sortir que les autres aient de l'information? Non. Puis dès qu'on va l'avoir, puis non, c'est super épié sur la CDPQ Infra, nous sommes les partenaires d'un même projet, puis je ne m'entendrai jamais dire « ça a faux de la CDPQ ou ça a faux de la ville. » Nous, pour le citoyen, là, il s'en fout que ce soit CDPQ ou la ville. Il veut savoir l'information, il veut avoir qu'est-ce qui va arriver chez eux, ça va être quoi les contraintes, et on va les donner. Mais présentement, on ne les a pas. Fait que je ne peux pas les inventer. Je ne peux pas vous dire, René Lévesque, c'est le 20 avril. On ne le sait pas.
Juste pour bien comprendre, là, on théorise. Là. Vous avez les informations vendredi. Lundi, il y a un point de presse. C'est ça?
Lundi ou mercredi, oui.
OK. Parfait.
Oui.
C'est bon.
Puis le but, c'est de sortir le plus vite possible. Quand les commerçants nous disent, on veut le savoir, c'est quand commencent les travaux, je les comprends. Si je ne le sais pas, je ne peux pas leur donner l'info, mais je reste en contact avec eux. Puis René Lévesque, dès que la CDPQ Infra va le savoir, soit eux, soit nous, un communiqué, on va sortir. Même si on n'a pas le temps de faire une conférence de presse parce que nos journées sont bookées, on va le dire.
Monsieur Marchand, moi, ça m'a surpris. Avez-vous été surpris personnellement par la mobilisation des gens pour sauver leur patinoire? C'est sorti vite, puis c'est sorti fort, puis c'est sorti le fun aussi.
C'est le fun. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est correct que les gens... Moi, je trouve ça beau. Je trouve ça vraiment beau, puis honnêtement, ça me rassure. Ça me rassure que le monde tienne à leurs infrastructures, puis sache qu'ils sont capables de se mobiliser, puis ça a de l'influence.
Les patinoires qui ont été annoncées cette semaine, il y en a deux qui vont fermer. C'est-tu les deux dernières du temps que vous allez être maire?
Oui, probablement. Le but, c'est qu'on en ferme le moins possible. Ce qu'on fait, par contre, c'est que les économies qu'on visait, 150 000 par année, on va les avoir autrement. Donc, en réduisant l'an prochain d'une heure, en faisant en sorte d'en fermer deux, on va aller chercher les économies qu'il faut.
Il y a des gens qui étaient déçus. On ouvre déjà à l'heure des SAQ pour les patinoires, là.
Mais l'enjeu, c'est, tu sais quoi? C'est que c'est de trouver surveillant. C'est pas simple. C'est souvent des étudiants. Fait que ça suppose qu'il soit à sa heures de cours.
Je sais pas si vous avez vu l'histoire du gars qui est dans le coin ici, qui s'est fait une patinoire, lui, tout seul. Il s'est acheté une Zamboni, puis il entretient ça, puis il invite ses chums, puis tout, puis tout. Faut-tu revoir la façon de gérer les patinoires? Puis je veux pas en mettre sur le dos du citoyen qui paye ses taxes, puis tout, mais des tripeux de patinoires qui décident de faire leurs propres affaires de leur côté.
Les organismes du coin qui veulent contribuer.
Est-ce qu'on doit revoir pour garder, conserver les patinoires? On voit, là, il y a de l'attachement. Là.
Oui, mais pas juste les patinoires, mais c'est une bonne question. Aujourd'hui, puis je suis pas en train de dire, là, je vais mettre des bémols, il y a toujours quelqu'un qui m'a dit que j'ai dit ça, j'aurais pas dit ça. Mais le citoyen qui s'engage dans sa ville et qui contribue, ça peut répondre à des impératifs pour nous aider à faire des choses. À New York, le maire a dit aux citoyens, allez chercher une pelle dans un garage, puis je vous paye, puis vous allez déneiger.
Ouais,
on n'est pas là à Québec, je répète. Là.
Non.
Je parle à Stéphane Lachance, là, j'ai pas dit ça. Là. Je fais juste dire, c'est un exemple pour parler de est-ce que les citoyens peuvent être contributifs sur l'entretien d'une patinoire? Mm-hmm. Est-ce que c'est des choses qu'on peut regarder? Est-ce qu'il faut que tous nos locaux soient surveillés, parce que présentement, ils sont surveillés.
Oui, parce que c'est ça qu'on nous demande. Pourquoi on ne peut pas aller à la patinoire, pas de surveillance? C'est pas comme une piscine.
Non, ils peuvent y aller. C'est juste que souvent, c'est le chalet qui est pas ouvert.
Ouais.
C'est pas toutes les patinoires là, qui sont barrées. Là. C'est pas... Les patinoires sont pas. Il y en a peut-être quelques-unes.
Bien que les buts vont être barrés, par exemple.
Ouais, comme a déjà dit mon grand, il dit moi, papa, les nets, là, je suis pas capable de les mettre sa patinoire.
Ouais, c'est
seul,
ça.
Là.
Quand ils les sortent, par exemple, pour l'arroser.
Ouais, ouais, ouais.
Exact. Alors, ce qui arrive, c'est qu'un adulte peut le faire, mais un enfant n'est pas capable. C'est pas fait pour pas qu'il joue en passant. Hein. C'est que le soir, quand il arrose, ils remettent pas le but tout de suite parce que sinon, il finit dans la glace. Fait qu'il le laisse sortir. Fait que là, comme le gars s'en va, le temps que ça gèle, il ne remet pas. Mais il y a beaucoup de patinoires où tu as accès. Mais c'est juste que tu n'as pas accès au chalet pour mettre tes patins.
Je regardais les chiffres d'affluence des deux patinoires qui vont fermer. Moi, j'achète le fait qu'il y a d'autres patinoires proches, mais vous répondez quoi à ceux qui disent que les patinoires les moins fréquentées de Québec actuellement sont de loin plus fréquentées que plusieurs pistes cyclables qu'on entretient l'hiver?
Puis sont de loin plus fréquentées que des rues qu'on entretient l'hiver, où ils passent 4 voitures parce qu'il y a 5 maisons.
Vous voyez donc ça de la même façon.
Mais non, mais je ferme-tu la rue? J'arrête-tu de déneiger la rue pour autant?
Non, c'est parce qu'il y a des gens qui mettent ça en opposition. Le fait qu'on ouvre des pistes cyclables pour un sport qu'ils considèrent comme saisonnier et une façon de se déplacer qu'ils considèrent comme saisonnière, alors qu'on ferme des patinoires qui font partie de notre ADN et notre sport national.
On en ferme deux patinoires.
Je comprends.
Un achalandage très mince. Pour moi, c'est pas une question de comparaison. On entretient des rues dans des quartiers où il passe pratiquement pas de voitures parce qu'il n'y a pas beaucoup de maisons. On les entretient pareil, puis on paye tous pour l'entretien de ces rues-là, même s'ils passent 5, 10 voitures. Alors, le but, c'est pas de mettre des pistes cyclables partout. C'est pas ça.
Est-ce que ça vous agace que les gens mettent en opposition ces dossiers-là? On a-tu créé ça un peu? C'est-tu de notre faute?
Oui, je pense que vous aimez bien le faire. Je pense que vous aimez bien nourrir cette idée que derrière les pistes cyclables, ça prend les ressources de la ville. Pas dans vous, là, je parle globalement. Là. C'est pas vrai, là. C'est pas... Puis l'opposition a joué là-dedans aussi. Là. Puis à un moment donné, ils sont arrivés avec des chiffres. Ils leur ont dit, OK, prouvez-moi ces chiffres. Puis en fait, non, finalement, on s'est trompé. Là. C'était pas ça, les chiffres. C'est facile de dire que si tu arrêtes d'entretenir les pistes cyclables, tu peux tout faire. Non. Celui qui utilise les pistes cyclables veut qu'elles soient entretenues. Celui qui habite à Val-Bélair puis que sa rue passe 10 voitures par jour, il veut qu'elle soit entretenue aussi. Puis c'est pas une raison que je dise, mais il en passe 10, on la déneigera seulement une tempête sur deux. C'est des choses différentes. Mais oui, comme ville, les citoyens nous demandent d'avoir un compte de taxes bas. J'en rencontre pas beaucoup de citoyens qui me disent « chargez-moi plus de taxes ». Les citoyens sont contents qu'à Québec, on soit la ville qui a la moins grosse croissance de taxes depuis que je suis élu, comme dans les plus grandes villes du Québec. Pourquoi? Parce qu'on gère ça tête en maudit. Gérer ça tête, ça veut dire quoi? On revise tous nos services, pas juste les patinoires. Là. On parle beaucoup des patinoires parce que c'est important pour les gens, tant mieux. C'est important pour l'activité physique, c'est important pour nos jeunes, et j'y crois moi aussi. Mais c'est tous nos services qu'on révise. Les dépenses doivent être révisées pour garder nos taxes basses.
Bien, parlons-en des révisions de services. Vous avez embauché une firme pour fouiller dans nos poubelles. Pourquoi, au juste?
Bien, parce que présentement...
Qu'est-ce qu'on présume, en fait?
Alors, on va juste mettre quelque chose d'autre là. On fouille pas dans les poubelles des gens, là. On prend un camion qui a passé dans un secteur qui équivaut à 400-500 maisons.
Mm-hmm.
On ne sait pas qu'est-ce que les gens ont mis. On sait globalement qu'est-ce qu'il y a dans le camion. Et ce qu'on veut voir, c'est qu'est-ce qu'il y a dans ce camion-là qui s'en va au
déchet. S'il y a une litière de chat d'un sac mauve, je veux juste dire que ce n'est pas la mienne, OK? C'est à quelqu'un d'autre.
D'accord. Ça me rassure, correct. Je suis content, parce que quand on fait ça, tout le monde paye
pour
ça, OK?
Bon.
Alors, on sait que présentement, on brûle beaucoup de cartons.
De toute façon, je n'ai pas de chat.
On sait qu'on brûle des millions en cartons. On veut comprendre, il vient de où ce carton-là? Pas il vient de quel individu, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour dire aux gens, on y perd tous, là.
Mais où on veut se rendre avec ça? À une police des poubelles?
Non,
ou...
non.
C'est pas ça le but?
Mais non. Mais non, le but, c'est juste d'être capable de dire, OK, comment on fait pour passer les bons messages, puis de dire, quand tu fais pas l'effort de mettre ton carton recyclage, là, c'est pas juste une question d'environnement puis de planète, si tu y crois pas au changement climatique ou à d'autres affaires de même, c'est aussi une question... que tes taxes se coûtent plus cher parce que ça nous coûte des millions pour brûler des déchets qu'on ne devrait pas brûler.
Mais en même temps, si on le présume, c'est qu'on s'en doute un peu déjà du résultat.
Mais on le voit, on le voit à l'incinérateur.
Donc,
ce qu'on veut savoir, c'est qu'il vient de où? Il vient de secteur résidentiel? Il vient de secteur commercial?
Okay.
Tu sais, il y a des choses qu'on est capable, puis après ça, on va pouvoir cibler des messages pour dire aux gens, regardez, c'est ça les effets quand on... fait pas les bonnes choses.
Non, mais c'est parce que les gens ont vu ce qui s'est passé dans le temps des fêtes avec ce qu'on a appelé la police des foyers. Là, ils voient y arriver la police des Timinous. Moi, je rappelle que j'en ai pas chez nous. Et après ça, ben, ça va être la police des poubelles. Il y a des gens qui pensent que c'est la suite logique. Là.
Mais il n'y a pas eu de police des foyers. Il y a eu des gens pour aller mettre des accroche-portes pour dire aux gens il y a une interdiction. C'est ça qui a été. Il n'y a pas eu d'amende qui a été donnée. Il n'y a personne qui a été.
On se rendra pas là.
On n'est pas là. Je vous l'ai dit. On arrivera peut-être là un jour sur la question des foyers, mais on n'est pas là, on est dans de l'éducation. On est en train de dire aux gens, on le fait pas pour vous faire suer. On le fait pas parce qu'on croit pas à ceux qui ont des foyers. On le croit pas. On n'est pas en train de dire qu'il y a quelqu'un qui allume son foyer, c'est mal. C'est pas ça. On est juste en train de dire, dans certains épisodes, on peut-tu juste collectivement travailler ensemble? Puis 98% des gens l'ont respecté. Puis ça nous aide à éviter un épisode de smog qui crée des ennuis de santé pour les proches autour de nous. C'est juste ça.
Vous avez salué les mesures que Christine Fréchette veut mettre en place dans les 10 prochaines années en attendant de nous dire qu'elle ne fera pas le troisième lien. Vous réagissez comment d'entendre le ministère des Transports remettre en cause la faisabilité de ce qu'elle a proposé? Entre autres, la 7e voie sur le pont La Porte, ça ne marcherait pas. Puis abaisser le tablier sur le pont de Québec, ça ne marcherait pas non plus.
Bien, moi, ce que j'ai comme info, je ne suis pas ingénieur, okay, prenons ça avec distance, c'est que ça marche, abaisser le tablier. Mais il y a des coûts, c'est un choix.
Moi, je pense ça marche-tu pour le transport lourd aussi?
Ben oui.
OK. Parce que là, je me demandais si vous aviez la même source que Bernard Drinville, parce que Bernard Drinville, c'est ce qu'il dit.
Mais lui, il dit que si on abaisse, le transport lourd ne pourra pas passer.
C'est ce que j'ai cru comprendre, à moins qu'on me rappelle à l'ordre. Il me semble que c'est ça qui avait été dit.
Nous, on a travaillé avec les gens de la ville, avec ceux qui travaillent sur le pont de Québec, la Société des ponts Jacques-Cartier, là, oui. qui est gestionnaire du pont pour le fédéral. On nous a toujours dit que c'était possible. Maintenant, je ne suis pas ingénieur. Je ne suis pas capable de vous dire si c'est bon, si c'est pas bon, c'est quoi les effets, combien ça coûte. Ce que j'aime, c'est pas de dire c'est la meilleure idée, mais c'est de dire on peut-tu les évaluer.
C'est de dire on ne fait pas le troisième lien.
Non, ça n'a pas rapport. Le troisième lien, mettons la solution de M. Drinville, le corridor central,
oui.
Il ne verra pas le jour avant 10 ans. Là.
Mm-hmm.
C'est long creuser, c'est long bâtir, c'est long faire des appels d'offres, c'est long livrer cette infrastructure. Donc, même les gens qui y croient présentement, pendant 10 ans, on fait quoi? Parce qu'on aurait un troisième lien à venir, on ne fait plus rien. Puis les gens sont pris dans la congestion. Si baisser le tablier du pont permet d'avoir plus de sécurité pour passer des camions, de passer de la mobilité active en meilleure qualité que présentement, parce que présentement, c'est le DAWA, bien pourquoi pas, pourquoi on ne l'évaluerait pas?
Il n'y a pas de ces projets-là que la Ville pourrait prendre puis dire « Hey, nous autres, on va l'idée. » Tu sais, je pense au pont d'étagement de Le Bourgneuf. La Ville est bien contente de donner des permis de construction de condos en quantité industrielle de part et d'autre de Capitale puis en haut de Robert Bourassa, ce qui a été fait d'une manière totalement loufoque, carrément, si on regarde comment ça se passe. Pourquoi on attend après le gouvernement pour des éléments comme ceux-là?
Je veux revenir sur loufoque. Parce que je comprends ce que tu veux dire.
On savait là, qu'il y avait un maximum qu'on pouvait faire dans ce secteur-là. Là.
Mais tu vois, c'est pour ça que je travaille toute la question de toutes les mobilités, de tous les transports. On ne peut pas développer un secteur en disant que les gens prendront en voiture, point.
Non, mais il n'y a pas de transport en commun qui peut se faire sur cet axe-là. Là.
C'est exactement ce que je dis. Ce que je dis, c'est que ça n'a pas été pensé comme ça. Fait qu'on on a donné des permis dans un secteur où il s'est mis du monde, puis où là, présentement, on a de la densité puis de la congestion. Quand moi, je milite pour dire qu'il faut valoriser tous les déplacements, c'est cette capacité-là. Fait que là, revenons sur le pont d'étagement. On n'a pas le droit, nous, d'intervenir sur un lieu qui n'est pas à nous. L'autoroute Robert Bourassa, ça appartient pas à la ville. Ça appartient au gouvernement du Québec. Fait qu'on peut pas, nous, intervenir de nous-mêmes, dire on va le faire.
On a la portion boulevard, par exemple, ou pas?
La portion boulevard, c'est à nous, ce qui passe donc au-dessus de l'autoroute, ou en tout cas, dans un pont d'étagement, ce qui passerait au-dessus. Et c'est pour ça qu'on travaille avec eux autres. C'est pour ça qu'on dit, nous autres, là, on y croit, ce projet-là, pour désenclaver, pour améliorer la fluidité, puis faire passer des voitures, oui, des autobus, oui, de la mobilité active, pour que tout le monde y gagne, parce que c'est un secteur qui s'est densifié beaucoup, puis les gens gagneraient à avoir une meilleure mobilité pour ne pas être pris à la lumière et attendre là trop longtemps. C'est exactement ce qu'on souhaite. Mais on n'a pas le droit. Vous l'avez peut-être vu, sur Laurentien, il s'est défait une passerelle.
Mon Dieu, oui. Hein? La chicane à savoir qui devait le gérer, c'est le ministère des Transports ou la
exact.
Ville.
Alors, il y a un imbroglio sur bon, tout ça. Mais la ville, elle ne peut pas, même si c'est son territoire, dire... Je pourrais pas, par exemple, arriver sur les plaines et dire, moi, je fais une intervention. Parce que c'est un territoire fédéral. Fait qu'il y a comme un... Comme tu peux pas arriver chez ton voisin et dire, moi, je te creuse un trou. Nous, on a les mêmes responsabilités. Fait qu'on peut pas dire, mais on va le faire à la place du gouvernement du Québec, il faut le faire avec.
Ça m'a surpris, le Front commun avec Montréal pour parler le du PEC. Programme de l'expérience québécoise, le PEC, parce que moi, de la façon qu'on m'avait expliqué ce programme-là, c'est que la problématique était bien différente à Québec qu'à Montréal, puis que ce qu'il fallait faire passer à un gouvernement qui est très centré Montréal, c'est que la dynamique de Québec était unique et particulière, puis que ça marchait pas dans notre réalité. Ça t'a aidé à faire progresser le dossier que Montréal embarque? Puis y a-tu moyen aujourd'hui, en tant que maire, de rassurer les employeurs, mais aussi les résidents, là, les gens qui sont parmi nous puis qui ont le goût de rester ici?
J'aimerais ça te dire oui. La preuve reste à faire. Dans le sens que présentement, sur le PEC, ça n'a pas bougé depuis 2 semaines, même si on est sorti avec des fédérations étudiantes, des associations d'entrepreneurs, d'entreprises indépendantes, avec des syndicats, avec les fédérations québécoises des municipalités, l'Union des municipalités. On était du monde, là, avant même cette sortie-là avec Montréal, la communauté métropolitaine de Montréal. Mm-hmm. Présentement, ça a bougé un peu. M. Drainville, Mme Fréchette ont fait des ouvertures, mais présentement, jusqu'au 12 avril, il n'y a pas d'ouverture. Fait que, qu'est-ce que ça fait, là, on le voyait un matin dans le journal, c'est 1000 personnes du réseau de l'éducation au Québec qu'on risque de perdre. C'est 6000 travailleurs du réseau de la santé. C'est un paquet de gens qui travaillent dans des milieux privés qu'on risque de perdre. Il y a des gens qui ont voulu présenter comme « Ah, le maire Marchand, ce qu'il veut, c'est un bar ouvert. On accueille n'importe qui en immigration ici. » Ça n'a pas rapport. Ce n'est pas un bar ouvert. C'est les gens qui sont déjà ici. Les débats pour ceux à venir, on peut les faire. Si tu 35 000, si tu 45 000, si tu 55 000, faisons-le. On parle de ceux qui sont ici, qui travaillent déjà. Moi, j'ai dit 2 choses. Il faut qu'ils parlent français. Il faut qu'ils travaillent ici. On ne parle pas des réfugiés, on ne parle pas des demandeurs d'asile.
On parle ceux qui font déjà partie de la communauté, oui. Qui contribuent déjà à la vie de la ville.
Le PEC, c'est ça. Ce n'est pas parce que tu es un travailleur que tu avais accès au PEC. Il faut que tu prouves ta capacité de parler français à un bon niveau. Il faut que tu prouves que tu travailles dans un lieu qui est reconnu pour avoir ta résidence.
Québec, on a pratiquement le plein emploi. Le taux de chômage est marginal.
C'est moitié moins que Montréal, puis plus que moitié moins que Toronto. Les grandes villes canadiennes sont à 6-7.
On a besoin de ces gens-là.
Aujourd'hui, il y avait une statistique qui est sortie qui disait le Canada et le Québec, il parlait du Québec parce que c'est des données québécoises, mais est presque en récession. En récession, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as plus de croissance. Mais plus de croissance, c'est théorique. Là. Pour tout le monde, la croissance, c'est quelque chose qui est macro. Mais le jour où les entreprises ferment, le jour où les entreprises produisent moins ou mettent du monde à pied, bien, c'est de nos amis qui perdent le job, c'est de nos enfants qui n'ont pas de job à aller se placer, c'est du monde qui font moins d'argent puis qui peuvent en arracher. La croissance économique, ça a un effet aussi dans notre travail. C'est pas banal.
Mais là, je vois beaucoup de dossiers en suspens. Avez-vous l'impression que le gouvernement est sur pause en attendant de trouver un chef à la CAQ?
Ben, c'est sûr que présentement, ça ne fonctionne pas comme si on était dans une situation normale. Là.
On aurait-tu dû proroger plutôt que de laisser des dossiers se faire traiter d'une manière ou d'une autre selon le candidat à chefferie?
Oui, mais il aurait été... Mettons, tu proroges la session... Il n'y a pas de question à l'Assemblée nationale, mais le dossier n'avance pas plus, tu ne veux pas qu'il avance. Hein. Fait que proroger, pour moi, ça n'aurait juste pas permis aux oppositions, aux journalistes de poser des questions. Ça aurait donné quelque chose, je ne suis pas sûr. Moi, j'ai envie de dire, la CAQ, nous, on travaille avec le gouvernement actuel, puis il y a des choses qui avancent. On travaille avec le cabinet du premier ministre, on travaille avec des ministres. Il y a beaucoup de choses qui avancent. Est-ce que tout avance à la même vitesse? Non. C'est malheureusement un peu normal dans un contexte où tu ne peux pas prendre des décisions pour la personne qui va être là, puis tu ne sais même pas qui ça va être. Fait qu'on travaille avec ça. Le PEC, ce qu'on a dit, c'est au ministre Roberge, vous êtes ministre présentement, let's go. Let's go, trouver des solutions.
Monsieur Marchand, je voulais faire une mise à jour sur le déneigement parce que quand vous êtes venu il y a un mois, on a abordé ce sujet-là. Puis vous aviez dit qu'il n'y a pas de problème anormaux concernant le déneigement à Québec. Depuis, dans Limoilou, il y a un déneigeur privé qui a été rappelé à l'ordre.
Dans Saint-Sauveur.
Y en a-tu d'autres? Est-ce qu'on a fait des vérifications un peu partout?
On les fait tout le temps.
Suite aux plaintes?
Alors, deux choses. On fait les vérifications. Quand les gens appellent 3-1, on corrige. Mm-hmm. Les gens là, qui nous disent, s'il y a quelqu'un qui nous écoute, puis dis-moi, là, il fait beau là, présentement, mon trottoir est glacé, appelez au 3-1.
Parce qu'il y a des rues qui sont rock'n'roll, effectivement, avec la glace.
Si elles n'ont pas été bien faites, que ce soit un entrepreneur ou en régie, c'est-à-dire nos employés, on va corriger le tir. Et ça nous permet de savoir est-ce que le travail est bien fait. Mais nous, on est des entrepreneurs, des évaluateurs sur le terrain qui évaluent. Dans Saint-Sauveur, ce n'était pas notre satisfaction. Qu'est-ce qu'on a fait? On a demandé à l'entrepreneur, c'est pas nos employés, c'est quelqu'un qui a un contrat, fait les correctifs, il est allé les faire, puis les trottoirs et les rues sont meilleurs qu'elles l'ont jamais été de cet hiver, mais non, c'est pas admissible, puis on exige des correctifs dans ce temps-là.
Je sais qu'on est de bonne heure, mais jamais trop tôt pour aller à la pêche. C'est-tu votre dernier mandat?
J'ai aucune idée.
Vous savez pas?
Non, puis tu sais, à quelque part...
Avez-vous des aspirations autres, provinciales, nationales? Il y a des gens qui vous prêtent des aspirations.
Il y a des gens qui me prêtent à cause que je suis intervenu sur le PEC puis qui disent que c'est une façon de me positionner. Moi, j'ai pas de plan, là, je vous l'ai déjà dit. Est-ce que ça peut arriver? Oui. Est-ce que je veux que ça arrive? Je suis pas là. J'ai demandé la confiance des gens pour être maire de Québec. On me l'a accordé. Je vais terminer ce mandat-là, puis peut-être j'en solliciterai un autre. Mais comme je vous l'avais dit dans le premier mandat, là, pour moi, c'est important ni de penser au prochain, ni de penser que je vais faire d'autres choses. Je veux tout donner, tout ce que j'ai pour ce mandat-là, et pas me dire « je vais prendre des décisions pour m'assurer d'une élection ». Je veux donner le meilleur de moi-même aux gens de Québec qui m'ont élu. Je veux donner le meilleur de moi-même dans un contexte pas simple, puis ils vont avoir le meilleur de moi-même, puis après ça, en temps et lieu, 6 mois, 9 mois avant l'élection, on décidera. Mais les gens qui sont en train de se faire une carrière politique sur 10-15 ans, selon moi, c'est pas une bonne façon d'envisager la politique.
Dernière petite question philosophique, juste pour être un petit peu baveux avec vos accompagnateurs. Un mandat de 4 ans, un mandat de 4 ans, ça use de combien d'années, ça?
8, 10.
Ouais.
Tu laisses un peu de ta peau. Sincèrement, là, puis j'ai fait un choix, là. Je suis pas victime de personne, puis qu'on m'érige pas une statue, c'est pas ça. Mais je le vois. Je le vois sur mon sommeil, je le vois sur le stress continu, je le vois sur cette volonté de transformer la ville, de répondre à ce qui va pas, aux insatisfactions des citoyens. C'est pas vrai que ça n'a pas d'impact sur la santé. C'est pas vrai. Ça me fait vieillir plus vite, c'est sûr. C'est ça. Fait que je dis 8. Ça a aucune science, là. Je fais juste dire, ouais, je dirais le double.
Monsieur Marchand, merci.
Salut, merci de l'invitation.
À la prochaine visite. Oui. 16h57, le maire Bruno Marchand, encore une fois, énormément de réactions. Je vais aller prendre le temps de vous lire un petit peu. On revient. Vous êtes à Boulevard 102.1, c'est Gravel dans le retour.
Pour joindre l'équipe de Gravel,